Première épître de Pierre. La première épître de Pierre traite du gouvernement de Dieu envers sa maison. La seconde épître traitera du gouvernement de Dieu envers le monde. Cette première épître de Pierre est adressée aux croyants élus d'entre la nation juive. Elle développe quatre sujets principaux. Premièrement, elle établit la vraie position de ses croyants dans le Seigneur Jésus et leur part en lui, en contraste avec leur condition antérieure en tant que juifs. Deuxièmement, elle nous enseigne quant à la conduite qui convient pour ceux qui se trouvent dans cette nouvelle position chrétienne. Troisièmement, elle montre que si la grâce de Dieu nous a placés dans une position de bénédiction, nous n'en demeurons pas moins sous le gouvernement de Dieu quant à notre conduite dans ce monde. Dans cette première épître, le gouvernement de Dieu est présenté davantage en relation avec le croyant. Dans la seconde épître, il est considéré en rapport avec le monde. Quatrièmement, elle nous montre des encouragements en vue des souffrances que nous aurons à rencontrer en traversant ce monde. Au chapitre 1, elle résulte des épreuves permises par Dieu pour éprouver notre foi, versets 6 et 7. Au chapitre 2, ce sont les souffrances par conscience envers Dieu, verset 19. Au chapitre 3, les souffrances pour la justice, verset 14. Au chapitre 4, les souffrances pour le nom de Christ, versets 12 à 14. Au chapitre 5, elles sont suscitées par l'opposition du diable, versets 8 à 10. Les 13 premiers versets du premier chapitre constitue l'introduction. Il présente la position de la part de celui qui, pendant son pèlerinage dans ce monde, croit au Seigneur Jésus. Cette position forme la base de toutes les exhortations pratiques qui suivent. Dans cette importante introduction, les croyants sont considérés comme des étrangers sur la terre, versets 1 et 2, ayant une demeure dans les cieux, versets 3 et 4. Pendant qu'ils traversent ce monde, ils sont gardés par la puissance de Dieu, verset 5, éprouvés par des afflictions, versets 6 et 7, soutenus par Christ, l'objet de leur foi et de leurs affections, verset 8, ils ont reçu le salut de leurs âmes, verset 9, et ils attendent le salut final en gloire à la révélation de Jésus-Christ. La méditation de ces versets d'introduction sera d'un grand profit pour nos âmes, nous amenant à réaliser à nouveau notre vraie position dans ce monde et la bénédiction rattachée à notre part comme croyants dans le Seigneur Jésus. Versets 1 et 2. Étrangers sur la terre. Citation de l'Écriture. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjourne parmi les nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Fin de citation. Le premier verset nous indique à qui l'apôtre adressait son épître. Il écrivait à ceux de la dispersion qui étaient disséminés dans la province de l'Asie mineure. L'apôtre écrit donc aux chrétiens d'entre les juifs qui avaient été dispersés parmi les nations. C'est à ces juifs que les pharisiens faisaient allusion, quand, parlant du Seigneur, ils demandaient « Va-t-il aller à la dispersion au milieu des Grecs ?» Jean 7, verset 35. Le fait que l'apôtre s'adresse à l'ancien peuple de Dieu comme étant disséminé ou dispersé est la preuve que la nation avait complètement failli et que, pour le moment, tout est en désordre sur la terre. Dans chaque position où Dieu l'a placé, l'homme a manqué et a perdu tout ce qui était confié à sa responsabilité. Le jardin d'Éden, sorti parfait des mains de Dieu, a été confié à Adam afin qu'il le cultive et le garde. Il a failli et a été chassé du jardin. Et son fils Caïn a été chassé de devant la face de Dieu, condamné à être errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, versets 12 à 14. Le monde nouveau a été confié à Noé. Il a failli, et ses descendants ont été divisés et dispersés sur la face de toute la terre. Genèse 11, verset 9. Le pays de Canaan a été donné à Israël. Le peuple a complètement failli et a été à son tour dispersé parmi les nations, comme Dieu l'avait annoncé. Deutéronome 28, verset 64. L'Église, dans son administration, a été confiée à la responsabilité des hommes. De nouveau, l'homme a failli et, extérieurement, l'Église est divisée et dispersée. Pourtant, bien que nous ayons manqué, Dieu, dans sa bonté, peut ramener quelques-uns sur le terrain primitif de l'Église. Mais là aussi, il y a manquement, division et ruine. Prenons donc garde de ne pas l'oublier. Si, dans ce monde, nous sommes des étrangers par l'appel de Dieu, c'est à cause de nos manquements que nous sommes dispersés. Le deuxième verset nous mène directement aux bénédictions qui résultent de la grâce souveraine de Dieu par laquelle nous sommes élus. Et là, il ne peut pas y avoir de manquement. Voilà ce qui rend ces versets d'introduction tellement précieux. Commençant par l'élection dans l'éternité passée, nous sommes transportés dans la gloire d'une éternité encore à venir. La grâce qui a eu son début sur la terre s'achève en gloire en haut. En dépit de l'ampleur de nos manquements, Dieu a ses élus. L'élection n'est ni nationale ni collective. Elle est personnelle et individuelle. Nous avons dans ce verset une description magnifique de ce qu'est chaque croyant individuellement. Comme tel, nous avons été élus dans l'éternité selon la préconnaissance de Dieu le Père. Il nous est dit ensuite pourquoi nous avons été élus. Nous sommes élus pour l'obéissance de Jésus et pour l'aspersion du sang de Jésus. Dans la sainteté de l'Esprit, Dieu nous a séparés pour ces deux choses. Nous sommes élus pour donner expression à sa vie et pour venir sous l'efficace de sa mort. La sanctification, ou sainteté, de l'Esprit est une opération effective du Saint-Esprit en nous, par laquelle nous sommes nés de l'Esprit. Elle nous communique une vie et une nature nouvelles. Il s'ensuit un changement total de disposition qui se traduit par un désir nouveau d'obéir. L'apôtre Paul pouvait ainsi dire, avant même d'avoir eu connaissance de l'efficace du sang, « Que dois-je faire, Seigneur ?» L'obéissance de Christ, ce n'est pas simplement le fait que nous nous plaçons sous un nouveau règlement et obéissons à Christ, mais que nous sommes mis à part pour obéir comme lui a obéi. Nous avons une nature nouvelle qui se plaît à faire la volonté de Dieu, comme Christ qui pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ». Jean 8, verset 29. La sanctification dont il est parlé dans ce verset n'est pas la sanctification pratique du croyant, qui est traitée dans d'autres passages et qui est nécessairement relative ou une question de degré, mais c'est cette sanctification beaucoup plus profonde qui est absolue. Il s'agit de cette œuvre effective de la grâce divine qui sépare du monde et pour Dieu quelqu'un, qu'il soit juif ou gentil. Pensée de William Kelly. L'ordre dans lequel la vérité est présentée montre clairement que ce ne peut pas être la sanctification pratique. La sainteté pratique suit la justification par le sang, tandis que la sanctification, dans ce passage, précède la mention du sang. En outre, les élus sont mis à part par l'Esprit pour être placés sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Par la foi en Christ, le croyant se met sous la protection du sang précieux qui purifie de tout péché et qui l'introduit devant Dieu en paix. L'opération de l'Esprit de Dieu dans un pécheur a pour but de produire en lui la vie de Christ et de l'amener sous l'efficace de la mort de Christ, cette mort qui ôte tout ce qui est contraire à Dieu. Ne pensant qu'à nous-mêmes, nous aurions mentionné le sang en premier, car c'est par lui seul que nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais l'Écriture présente d'abord le grand but positif que Dieu a devant lui lorsque son esprit commence à travailler dans notre âme, à savoir reproduire la vie d'obéissance de Christ. Ce verset nous enseigne que nous avons été mis en relation avec chacune des personnes de la Déité. nous avons été élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, nous avons été sanctifiés par l'œuvre de l'Esprit en nous, enfin, l'élection du Père et l'opération de l'Esprit sont pour que nous obéissions comme Christ a obéi et que nous soyons placés sous l'aspersion du sang de Christ. Versets 3 à 5. Citation de l'Écriture. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Fin de citation. Les deux premiers versets avaient présenté le croyant comme un étranger sur la terre, séparé du monde, selon l'élection du Père, l'opération de l'Esprit et l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, nous apprenons que la demeure du croyant est dans les cieux. L'espérance du Juif était terrestre et, pour le moment, la mort de Christ y a mis fin. La nation a crucifié son Messie et a perdu ainsi sa bénédiction terrestre. Mais, selon la grande miséricorde de Dieu, ces croyants avaient été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Toute l'espérance du croyant repose sur Christ ressuscité. Notre espérance est sûre et ferme parce qu'il est ressuscité. C'est une espérance vivante parce que Christ est vivant. Cet héritage céleste, en contraste avec celui qui est terrestre, est incorruptible, sans souillure, immarcessible, et il est conservé pour le croyant. Non seulement les cieux sont réservés pour nous, mais, pendant notre pèlerinage, nous sommes gardés de tous les dangers inhérents à notre passage dans ce monde. C'est la puissance de Dieu qui nous garde, mais c'est par la foi que cette puissance opère. La puissance de Dieu soutient la foi des siens qui sont ainsi gardés pour le salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Par la foi, nous considérons la délivrance finale qui nous introduira dans la pleine jouissance de l'héritage céleste. Versets 6 à 9. Citation de l'Écriture. En quoi vous vous réjouissez tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Fin de citation. Être gardé par la puissance de Dieu des dangers du chemin ne signifie pas que nous ne rencontrerons aucune épreuve. La perspective de l'héritage céleste peut nous réjouir grandement, même si maintenant nous sommes peut-être affligés par diverses tentations. Elles sont là pour tester notre foi. Aux yeux de l'homme, l'or est très précieux. Pour Dieu, la foi des siens est beaucoup plus précieuse que l'or. Si les hommes éprouvent leur or par le feu pour le purifier des scories, pourquoi Dieu ne ferait-il pas passer la foi des siens par l'épreuve du feu pour en manifester la réalité, comme aussi pour la purifier et la fortifier? Par ces afflictions, nous sommes éprouvés. Dieu n'attend pas des siens qu'ils soient impassibles devant les épreuves et indifférents aux afflictions. Mais, par les peines et les douleurs, il veut manifester notre foi en lui. Pour nous encourager, trois vérités précises nous sont rappelées en relation avec ces épreuves. Nous apprenons d'abord que nos épreuves ne sont que pour un temps. Si les délices du péché sont pour un temps seulement, Hébreux 11, verset 25, les afflictions des saints également ne sont que pour un temps. Deuxièmement, il nous est rappelé qu'il y a une nécessité à ces afflictions, car elles sont pour un peu de temps, si cela est nécessaire. Le Père ne fait pas verser une seule larme inutile à ses enfants. le « si cela est nécessaire » est pour éprouver notre foi, non pas pour vérifier si nous avons la foi, mais plutôt pour mettre en lumière la valeur de la foi que nous avons. On ne met pas l'or dans le feu pour prouver que c'est de l'or, mais pour faire ressortir les qualités précieuses du métal. De même, Dieu éprouve notre foi par diverses tentations pour en manifester les qualités précieuses. La foi qui compte sur Dieu dans l'épreuve conduit à la soumission à ce que Dieu permet. La foi en Dieu rend l'âme capable d'attendre avec patience. Jacques 1, verset 3. La foi en Dieu permet aux croyants d'être fermes face aux attaques de l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 9. L'âme peut avoir une foi vraie, mais lorsque l'épreuve surgit, ses qualités bénies de la foi, la soumission, la patience, la fermeté, la confiance et la dépendance de Dieu sont mises en évidence. Troisièmement, nous apprenons que ces afflictions trouveront une réponse bénie dans le jour de gloire à venir. La manifestation de ces qualités au jour de l'épreuve tourneront à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes enclins à considérer comme du temps perdu une période d'épreuve pénible qui nous empêche peut-être d'avoir une part active dans le service du Seigneur. Non, dit Dieu, l'épreuve sera trouvée tournée à louange dans la révélation de Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir à traverser sur la terre, nous avons en Christ un objet pour nos affections, quelqu'un en qui nous pouvons nous confier, quoique nous ne le voyons pas, quelqu'un en qui nous pouvons nous réjouir d'une joie qui est un avant-goût de la gloire à venir. Ainsi, au milieu des épreuves, nous avons en Christ une ressource infaillible. Nous attendons l'héritage. Nous attendons le salut final prêt à être révélé. Nous attendons l'honneur, la louange et la gloire à la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas le salut de notre âme que nous attendons. Par la foi en Christ, celui que nous ne voyons pas encore, nous avons déjà reçu ce salut-là. Versets 10 à 13. Citation de l'Écriture. Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Fin de citation. L'apôtre parle maintenant de ce salut dans toute son étendue. Il indique les trois étapes par lesquelles il est manifesté. Dans ces versets, il parle du salut dans sa plénitude, à savoir l'entière délivrance de l'âme et du corps de toutes les conséquences du péché. Ce salut qui nous est offert, à nous des pécheurs indignes, l'apôtre l'appelle à juste titre « la grâce » dans le verset 10. Cette grâce, ou ce salut, a été annoncée par les prophètes qui, parlant par l'Esprit de Dieu, ont prédit la réjection du Messie par les Juifs et la bénédiction parvenant aux nations, les souffrances de Christ et les gloires qui suivraient. Ce salut n'a pas seulement été annoncé prophétiquement depuis la Pentecôte, il l'a été par ceux qui proclament l'Évangile, par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Enfin, la grâce d'un plein salut nous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ, un salut qui nous fera sortir de toutes nos épreuves et de toutes nos souffrances et nous introduira dans la gloire avec Christ. Cette gloire à venir a été annoncée par les prophètes autrefois, elle est prêchée par le Saint-Esprit aujourd'hui, elle aura son plein accomplissement dans le jour de gloire encore futur. En vue de cette gloire à venir, nous devons ceindre les reins de notre entendement, être sobres et espérer parfaitement dans la grâce qui nous introduit dans la gloire. Ceindre les reins de l'entendement suggère que le chrétien doit veiller à ce que son esprit ne vagabonde pas sans contrôle sur les choses de la terre. Il doit penser aux choses qui sont en haut. Le chrétien doit également être sobre dans son jugement quant à tout ce qui se passe dans ce monde, ne se laissant pas tromper par les efforts des hommes pour introduire un millénium sans Christ. Quoi qu'il arrive dans ce monde, le chrétien est appelé à regarder en haut et à espérer parfaitement dans la grâce qui nous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Dans l'introduction de cet épître, nous avons donc une très belle présentation de ce qui est la part du croyant, commençant par l'élection de Dieu dans l'éternité et conduisant à la gloire encore à venir. L'élection souveraine de Dieu est en vue de la gloire. Aucun manquement de notre côté ne peut faire échec aux propos de Dieu. Entre l'élection et la gloire, il y a les épreuves du chemin, mais ceux que Dieu a élus, il les garde, et ceux qu'il garde, il les introduit dans la gloire. Après avoir placé devant nous dans les versets d'introduction la position et la part du croyant présente et future, l'apôtre nous exhorte à nous conduire pratiquement de la manière qui découle de cette position et qui convient aux différentes relations dans lesquelles le chrétien se trouve. Les croyants sont considérés sous sept aspects. D'abord, comme des enfants en relation avec le Père, chapitre 1, versets 14 à 17. Deuxièmement, comme rachetés en relation avec l'œuvre de Christ, chapitre 1, versets 18 à 21. Troisièmement, comme frères en relation les uns avec les autres, chapitre 1, versets 22 à chapitre 2, verset 1. Quatrièmement, comme des enfants nouveau-nés en relation avec la parole, chapitre 2, versets 2 et 3. Cinquièmement, comme des pierres vivantes en relation avec Christ dans la gloire, chapitre 2, versets 4 à 8. Sixièmement, comme une race élue en relation avec Dieu, chapitre 2, versets 9 et 10. Septièmement, comme forains et étrangers à l'égard du monde, chapitre 2, versets 11 à 17. Versets 13 à 17, notre vie pratique comme enfant. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Fin de citation. La première caractéristique de l'enfant en relation avec le Père est l'obéissance. Cette obéissance, comme nous l'avons vu, est celle qui a été manifestée dans toute sa perfection en Jésus-Christ. Sa marche sur la terre a été celle de l'obéissance continuelle au Père. Il pouvait dire « Selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. » Et encore « Je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, versets 28 et 29. Dans les jours où nous ne connaissions pas Dieu, nous accomplissions notre propre volonté, satisfaisant des convoitises impies. Comme enfants, nous sommes maintenant exhortés à la sainteté, autrement dit à la séparation du mal. L'apôtre cite la loi à l'appui de la sainteté, Lévitique 11, verset 44. Le caractère de la dispensation peut se modifier, mais la nature de Dieu ne peut pas changer. Dieu est absolu en sainteté. C'était vrai sous la loi, cela demeure vrai sous la grâce. Aussi, ceux qui sont en relation avec Dieu, que ce soit sous la loi ou sous la grâce, doivent être saints. Si, comme croyants, nous manquons quant à la sainteté, la relation même dans laquelle nous sommes avec Dieu nous placera sous la sainte discipline du Père. Parce que nous sommes fils, le Père nous châtiera et nous disciplinera comme des fils, afin que nous participions à sa sainteté. Ce juste gouvernement du Père sera exercé selon nos œuvres et sans exception de personne. Conduisons-nous donc avec une sainte crainte pendant le temps de notre séjour ici-bas. Ainsi, comme enfant, notre vie pratique doit être conforme à la sainteté de celui qui nous a appelés et que nous invoquons, et être caractérisée par l'obéissance, la sainteté et la crainte. Invoquons-nous le Père pour sa protection, sa direction et sa bénédiction? Veillons alors à ne pas mettre un obstacle à nos prières et à ne pas attirer la discipline sur nous par la volonté propre ou l'impiété. Versets 18 à 21. Notre vie pratique comme rachetée. Citation de l'Écriture. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Fin de citation. Lorsque nous étions irrégénérés, nous nous trouvions loin de Dieu, menant la vie vaine des générations déchues qui nous ont précédés. Nous avons été rachetés de cette condition, et la valeur que nous avons pour Dieu, de même que l'horreur que Dieu a pour cette condition déchue, ont été mises en évidence par le prix immense de notre rédemption. Nous n'avons pas été rachetés par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau était préconnu de Dieu dès avant la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin des temps pour les croyants, afin que par lui nous puissions être amenés à Dieu et marcher devant lui dans la foi et dans l'espérance, sachant que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et lui a donné la gloire. Notre foi est dans le Dieu qui peut ressusciter les morts, notre espérance dans un Dieu qui peut donner la gloire. En tant que rachetés, nous devons être caractérisés par la foi et l'espérance en Dieu. Versets 22 à 25. Notre vie pratique comme frères. Citation de l'Écriture. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. Fin de citation. En relation avec le Père, nous sommes des enfants. En relation avec l'œuvre de Christ, nous sommes des rachetés. En relation les uns avec les autres, nous sommes des frères. Comme frères, nous sommes exhortés à nous aimer l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. Le cœur est pur lorsque l'âme, par l'obéissance à la vérité, est purifiée de tout mal et de tout motif égoïste qui empêcherait l'épanchement de l'amour. Notre relation de frère n'est pas rattachée à notre naissance naturelle, comme pour Israël, mais à une naissance spirituelle lorsque nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Par cette nouvelle naissance, nous avons reçu une nouvelle nature, dont l'essence même est l'amour, de sorte que malgré de nombreuses différences de conditions sociales ou de caractère, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. La vie et les relations qui découlent de cette nouvelle naissance sont aussi permanentes que la parole de Dieu par laquelle l'âme est régénérée. La parole de Dieu est vivante et demeure éternellement. Ainsi, celui qui est régénéré entre dans une vie et dans des relations que la mort ne peut pas toucher et auxquelles le temps ne peut pas mettre fin. L'homme naturel est, certes, comme l'herbe qui sèche, et sa gloire comme les fleurs qui tombent bien vite, avant même que la plante soit fanée.